Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Catherine Taille a tout lâché pour se lancer dans un Tour de France en roller sans argent. Elle a décidé de partir en laissant tout derrière elle, pour aller à la rencontre des gens à travers le pays. Chaque jour, elle compte sur la générosité des personnes qu'elle croise pour se nourrir et se loger. Dans cette deuxième partie de l'émission Regarde ailleurs, Catherine revient sur ses choix et partage avec nous quelques anecdotes de son voyage qui aura duré 16 mois. Cette notion de voyage, donc Catherine, hein, 16 mois sur les routes de France avec tes rollers, tu as fait plus de 10 000 km, sans argent. Donc sans argent, c'est quelque chose qui est choisi, hein. Tu as fait ce choix, pourquoi? Parce que tu voulais te prouver que c'était possible ou parce que tu n'as pas d'argent?
Alors j'ai de l'argent. Non, je suis pas riche, mais je travaillais avant, donc... Alors justement, je sais pas ce que je disais au début, c'est que c'est venu assez naturellement. Alors peut-être par inspiration de personnes que j'ai rencontrées, mais elles-mêmes avaient un petit peu d'argent quand même. Donc je sais pas, c'était à la fois parce que j'avais une grande confiance et que je me suis dit que ça pouvait le faire sans argent, et à la fois parce que je voulais pas avoir cette contrainte de l'argent.
Donc c'est vraiment quelque chose de choisi et pas de subi.
Non, c'est complètement choisi, ouais.
Et tu parles de cette notion du café, tu vois, le côté contrainte, le fait de voyager sans argent, ça veut dire que si tu veux un café, tu peux pas, hein, ça devient une contrainte. Mais t'aurais pu à ce moment-là te payer ton café. T'as vraiment voulu te tenir à ton idée première qui était de faire ce voyage sans argent, ou il y a quand même des moments où tu as mis la main à la poche?
Alors, ça, c'est hyper intéressant. En fait, je voyage donc en papier, j'ai ma carte d'identité, j'ai une carte vitale, parce que je sais pas, je me sens rassurée avec ma carte vitale, et puis... j'ai une carte bancaire. Et la carte bancaire, faut savoir que je l'ai... Alors, pour manger et dormir, je ne l'ai jamais utilisée pendant mon voyage. Par contre, il y a deux cas où je l'utilise, où je l'ai utilisée. Le premier cas, c'est quand je passe plus de 3 jours avec une personne qui me paye tout depuis 3 jours. Là, je me permets en fait de aussi participer aux frais. Parce que je me dis, bon, si elle devait prouver quelque chose, elle l'a prouvé, et là, c'est bon... parce que des fois on passe du temps pour visiter tel endroit et donc du coup là je participe évidemment. Et le deuxième cas, c'est quand je suis accueillie par des personnes qui sont en fait pauvres, parce que il y a des personnes pauvres qui m'accueillent. Et par exemple, à un moment, il y avait une maman avec son fils et la maman en fait ne pouvait pas faire de courses. En tout cas, à ce moment-là, elle ne pouvait plus faire de courses parce qu'elle n'avait pas assez, ni de temps d'ailleurs, ni d'argent. Et en fait, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais le matin au magasin, je vais faire un petit panier de courses et je le dépose devant la maison. Puis là, je trace ma route. Et en fait, donc, du coup, ça m'arrive de dépenser, mais pour ceux qui ont besoin, en fait. Mais pour moi, mon rapport à l'argent, c'est que l'argent est un outil. Et si j'en ai pas besoin, mais que j'en ai... c'est pas mon argent. C'est-à-dire que la personne qui en a besoin, elle, c'est normal que ça lui revienne, en fait. L'argent, par exemple, que j'ai grâce au chômage, parce que j'ai le chômage, en fait, je distribue une partie à mes proches qui en ont besoin. Et ça a aidé plusieurs fois des gens. Mais c'est même pas moi qui aide, en fait. Hein. C'est juste qu'il y a de l'argent, des gens en ont besoin, c'est normal que ça leur revienne. Et alors que moi, j'ai pas du tout besoin d'argent.
Une autre belle leçon que j'observe sur ton mode de vie, donc tu arrives ici avec tes rollers, ton petit sac, 16 mois sur les routes, hein, et pas grand-chose dans ton sac, hein, cette notion de minimalisme, de sobriété, on se rend compte qu'on vit dans des vies, dans des appartements qu'on a tendance à accumuler de la matière, des objets, on en fabrique plein, on les remplace, on les jette, on en remplace, des fois on les stocke, et cette notion de vivre sans rien ou avec un minimum, c'est possible. Donc parle-moi de cette notion de sobriété, de simplicité, et puis raconte-nous un peu ce que tu as mis dans ton sac pendant ces 16 mois.
Alors moi, avant de partir, j'aimais beaucoup déjà ce mode de vie minimaliste. Donc déjà, chez moi, j'avais deux meubles, c'est-à-dire un matelas et une table basse. Voilà, j'avais pas d'autres meubles. Et j'avais pas beaucoup d'objets. J'avais pas beaucoup ni de vêtements, ni d'accessoires. Donc, en fait, c'était plutôt facile pour moi de me débarrasser des derniers objets que j'avais et dont j'avais pas besoin pour le voyage, pour partir avec peu. Et j'aime bien, en fait, ce mode-là de me dire « je prends que ce dont j'ai besoin ». Et donc, du coup, dans mon sac, là, j'ai en sous-vêtements, j'ai deux sous-vêtements, deux paires de chaussettes. J'ai une seule tenue, donc un t-shirt et un pantalon. J'ai un petit short pour rouler quand il fait chaud, avec une brassière. Ça, c'est en habit. Ensuite, j'ai un poncho de pluie. En fait, mon sac, il a varié pendant le voyage. Enfin, j'ai ajouté des choses, j'ai changé des choses et j'en ai déposé aussi. Je voyageais avec un instrument de musique à un moment et puis finalement, je l'ai laissé. J'ai mes plots de roller. Alors ça, c'est un indispensable parce qu'en fait, c'est des petits plots que tu places pour faire du slalom. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est quand je trouvais une place avec du passage, poser mes plots et faire une démonstration de slalom. Et comme ça, ça pouvait... Enfin, il y a plein d'enfants qui venaient et puis je leur parlais du roller. Et puis ça pouvait être un moyen aussi de partager cette passion. Puis voilà. Après, j'ai aussi un petit carnet... dans lequel je note mes adresses, mon itinéraire et une carte IGN des véloroutes et des voies vertes. Ça, c'est assez pratique. Après, en cosmétique, j'ai juste ma brosse à dents et un dentifrice. J'avais un shampoing et tout ça, mais en fait, je me suis débarrassée de tout ça parce que je me suis dit que j'utilisais ceux des gens chez qui j'allais et que si jamais ils n'avaient pas de quoi, eh bien, je me lavais à l'eau, quoi. C'est OK aussi. Et en fait, je me disais que ce dont j'ai absolument besoin, moi, et que je peux pas avoir chez les gens, il faut que je l'ai dans mon sac. Et tout ce que je peux avoir chez les gens, ben en fait, j'ai pas besoin de l'avoir dans mon sac. Et en fait, j'ai remarqué que c'était un luxe de voyager léger. Donc, le confort, pour moi, c'est plus de ne rien avoir que d'avoir plein de choses dans le sac.
Donc, le luxe, c'est de se libérer d'un maximum d'objets superflus.
Oui, ouais, c'est ça.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Catherine, le roller, emmène-moi un petit peu dans cet univers-là que je connais pas du tout. Donc, si j'ai bien compris, il y a toute une communauté autour du roller. Donc, c'était un peu ton fil rouge pendant le voyage. Comment ça se passait? Est-ce que tu allais là où il y avait d'autres, je sais pas, comment on dit, des rolleristes? Il y a peut-être un nom pour ça, des gens qui font du roller. Est-ce que tu les rencontrais au petit bonheur la chance? Et aussi, la question peut-être un peu bête que je me pose, mais c'est combien de roues de roller tu as dû changer sur ces 10 000 km?
Oui, alors, le roller, c'est génial, déjà. Vive le roller! Le roller, t'as plein de disciplines différentes. T'as le roller vitesse, le roller derby, le roller freestyle, freeskate, street, etc. Et donc, pendant ce voyage, j'ai pu rencontrer des pratiquants, enfin, on appelle des riders, du coup, de toutes ces disciplines. Et moi-même, j'ai appris beaucoup. Enfin, j'ai continué à progresser et j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et donc, soit je contactais des groupes de rollers sur Facebook... Facebook, c'est génial pour les groupes, je trouve. Et on organisait une session. Donc là, je rencontrais les riders du coin. Et je roulais avec les locaux. Et donc, c'est génial de rencontrer des passionnés comme toi qui te montrent leurs spots, qui te montrent leur ville. Et j'ai adoré cette partie-là. J'ai roulé avec plein de locaux de plein de villes. Et ça, c'est chouette. Et combien de roues? Mais en fait, c'est mon troisième jeu de roues. Donc là, j'ai en tout 6 roues, donc ça fait 18 roues. Et alors, je ne sais pas si tu vas me poser la question, mais vas-y, j'anticipe. Comment je me rachète les roues, comment je rachète le matériel, voilà. Je ne suis pas partie avec du matériel dans mon sac, ça, ce n'était pas possible. Et en fait, il s'est passé quelque chose, une rencontre, une très belle rencontre. Je roulais à Annecy et là, je vois un rider qui roule à côté, et en fait, dès que je vois un rider, moi, je viens le voir et on parle. Et donc, du coup, je le vois, je lui dis, viens rouler avec nous et tout ça. Donc, on fait une petite session ensemble et je lui raconte mon voyage. Il s'appelle Thomas. Et Thomas, en fait, m'a dit qu'il connaissait Sébastien Lafargue et c'est le créateur de ma marque de roller. Donc, il m'a mise en lien. Et quelques semaines plus tard, en fait, j'ai reçu un mail de l'équipe Seba qui a décidé de me sponsoriser. Mais ce que j'ai adoré, en fait, dans ce sponsor, c'est qu'il me demandait rien en échange. Vraiment, c'était juste, on veut te soutenir parce que ton projet est chouette. Et donc, en fait, il me donne le matériel dont j'ai besoin. Et ça, c'est génial. Enfin, hein. Donc, c'est comme ça que je change mon matériel. Voilà.
Donc, dans cette communauté de rollers que je découvre à travers toi, tu as dû rencontrer effectivement beaucoup de riders un peu partout en France. J'imagine que quand tu débarques comme ça, que tu parles de ton projet de Tour de France à durée indéterminée, il y a pas mal de riders qui ont peut-être voulu aussi se joindre à toi ou faire un bout de route ensemble.
Ce qui est drôle, c'est qu'en roller, j'ai pas eu beaucoup cet engouement. Par contre, il y a un mec en trottinette qui m'a suivi sur 300 km. Donc ça, c'était pas mal comme expérience. Mais oui, c'est vrai que quand je débarque dans un skatepark et que je parle du voyage, généralement, les gens, ils sont super étonnés parce que bon, ils s'y connaissent, ils savent ce que c'est que de rouler. Et donc, ils se disent, mais 60 km par jour, c'est juste trop, quoi. C'est énorme. Ils se rendent compte. Ben, en fait, en se rendant compte de ça, ils ont pas envie de partir avec moi.
Tiens, c'est intéressant, je reviens sur cette aventure. Donc tu dis que tu as partagé quand même 300 km avec un autre rider en trottinette. Mais alors là, quand on voyage à deux, c'est plus du tout pareil. On demande pas à manger de la même manière ou l'hébergement de la même manière, j'imagine.
Mais en fait, c'est de la même manière. Ouais. On a même voyagé un jour à 4. Et là, on était en roller. C'était trois amis en roller qui m'ont rejoint de Lyon jusqu'à Annecy. Et on était 4 tous les soirs à demander l'hébergement et tous les jours à demander à manger. Ben, c'est surprenant, mais ça marche. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, ça marchait même mieux que quand j'étais toute seule. Donc, je sais pas. Bon, c'était de la chance, peut-être, on va dire ça.
Mais chez la même personne, parce que c'est pas évident, accueillir une personne, ça va, c'est simple. On a tous un bout de canapé qu'on peut prêter. Mais quand t'as 4 personnes qui sonnent chez toi et qui te disent « on a faim, on veut dormir », c'est plus pareil.
Mais oui, et ben justement, on s'est exactement fait cette réflexion. Et j'aurais même briefé en disant, les gars, on est 4, on va peut-être devoir se séparer en 2 maisons, voilà, tenez-vous prêts, on va avoir sûrement plein de refus. Et en fait, le premier jour, première porte chez qui on sonne, et ben ils nous acceptent. Donc je leur ai dit, bon, ne vous inquiétez pas, les gars, demain on galérera. Et deuxième jour, pareil, ils nous acceptent directement. Et en fait, c'est des couples qui avaient des enfants et les chambres d'enfants sont vides. Et donc, du coup, ils peuvent nous accueillir. Donc, voilà. Comme quoi, tout est possible, quoi, vraiment.
Je veux bien que tu me fasses un peu la sociologie des portes ouvertes. Quels sont les profils des gens qui t'accueillent en général? Donc là, tu me parles de famille avec des enfants où les chambres sont vides. Mais qui sont les gens qui ouvrent le plus facilement leurs portes aux voyageurs ou à la voyageuse que tu es?
Alors, ça, je vais faire des statistiques très 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 sérieuses en rentrant de voyage parce que ça m'intéresse aussi. Mais je m'étais amusée déjà à les faire en décembre dernier. Et alors c'est très drôle parce que c'est hyper équilibré, que ce soit homme, femme, seul, en couple, famille, un peu moins de colocation. Mais donc du coup c'est vraiment équilibré quoi, niveau sexe, niveau âge. Et j'ai à un moment donné je me suis amusée à relever les professions qui m'accueillait le plus. Et alors, j'ai eu beaucoup de professeurs d'anglais. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai eu beaucoup aussi de personnel soignant, des infirmiers, médecins, aides-soignants, on m'a beaucoup accueilli. Et après, il y a des métiers beaucoup plus insolites, ceux qui travaillent dans les pompes funèbres, des forgerons, ça. Mais en fait, c'est hyper diversifié. Ouais. Mais bon, en tout cas, j'ai relevé les profs et les soignants.
Alors j'ai bien compris que t'as pas encore fait les statistiques, mais que tu vas les faire un peu plus tard, mais j'ai quand même une fourchette approximative. C'est une porte sur 2 qui s'ouvre, une porte sur 3, une porte sur 10?
Franchement, je sais pas, je dirais une porte sur 5. Si je devais vraiment faire une approximation très approximative. Mais oui, je dirais une porte sur 5 ou une porte sur 10. Ouais, je sais pas.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Catherine, emmène-nous dans une journée type, donc choisis sur ces 16 mois de voyage, une journée qui t'a plu ou pas, en tout cas une journée que tu as envie de partager avec nous. Donc comment elle commence le matin, où tu te réveilles et où est-ce qu'elle se termine le soir?
Alors,
en essayant de créer une dimension visuelle pour celui qui nous écoute.
Oui. Alors le matin, je me lève toujours grâce à la lumière du jour parce que j'ai décidé pendant ce voyage de ne jamais mettre de réveil et donc d'essayer de vraiment d'étudier mon corps en fait. Donc le matin, je me réveille avec la lumière du jour, je me lève tranquillement, puis là je prends le petit déjeuner si c'est proposé avec mon hôte. Donc on partage un dernier moment ensemble à discuter. Puis je prépare mes affaires et puis je remballe tout, je fais le checkpoint de toutes mes affaires. Et là, je sors, merci, au revoir. Et donc je pars, je commence à prendre la route. Généralement, j'ai un peu défini avec l'hôte la veille et puis avec ma carte hygiène et mon portable un petit peu, l'itinéraire que je veux faire. Donc je sais que je vais partir par là et je vise à peu près une ville d'arrivée. Donc là, je commence à rouler et ça arrive tellement souvent, ça, je roule sur une piste super belle et là, tout d'un coup, elle s'arrête et puis c'est de la caillasse. Alors, je comprends pas, là, vraiment, c'est dur. Les moments les plus durs dans mon voyage, c'est ça. C'est quand je veux rouler, que tout s'y prête, il fait beau, je suis pas fatiguée ni rien. Et là, tout d'un coup, je ne peux plus rouler parce que le sol, le revêtement m'en empêche. Donc, que ce soit de l'herbe, du sable ou des graviers. Donc, dans ce cas-là, je pleure un bon coup, déjà. Comme ça, ça enlève ma frustration. Et puis, en fait, soit je continue de rouler, soit je déchausse et puis je marche un petit peu le temps que ça redevienne lisse. Là, je rechausse et je continue mon chemin et je repense, en fait. Pendant tout le moment où je roule, ça devient presque méditatif, en fait. Et je repense au sourire de la veille. Et je repense aux conversations de la veille. Et j'observe en fait tout ce qui passe. Et des fois, c'est pas du tout ordonné dans ma tête. Mais j'observe et ça me fait réfléchir. Et parfois, je pars dans une réflexion toute seule. Et à un moment donné, j'ai plus envie, j'ai envie d'écouter de la musique. Donc j'allume mon enceinte, je mets de la musique. Et puis là, je chante et je croise tous les autres voyageurs sur la route. Et puis là, je quitte la piste cyclable, j'arrive sur une route, parce que du coup, la piste cyclable est finie. Donc, je mets mon gilet réfléchissant, je mets mon casque et je colle la droite, je fais attention, et là, je prends la route. Donc, les voitures passent, et toujours, je regarde toujours derrière pour pas être surprise. Parfois, il y a des camions qui passent et ça fait des appels d'air, donc dans ce cas-là, faut gainer tout le corps pour pas s'envoler. Et puis, j'arrive dans ma ville d'arrivée, il est à peu près 15-16 heures. Et là, soit j'ai hyper sommeil, je me pose sur un banc et je dors, je fais la sieste. Ou soit j'ai faim, donc là je fais le tour des boulangeries et puis je demande s'ils ont quelque chose qui pourrait me nourrir. Et à partir de 17h, 18h, ça dépend, l'hiver c'est plus à partir de 16h, l'été à 19h, je peux encore, je commence à chercher l'hébergement. Donc là, je me balade dans les résidences, je cherche surtout les maisons, parce que j'ai déjà sonné à des appartements, mais c'est pas pareil de parler à un interphone ou à quelqu'un devant soi. Donc, je cherche l'hébergement, et là, c'est oui, c'est non, et des fois, je m'arrête pour discuter, et puis la personne me dit « Ok, tu peux rentrer ». Donc là, c'est le cri de joie tout le temps. Mon cri de joie, je peux faire mon cri de joie? Mon cri de joie, c'est « Oui !» avec les mains en l'air, comme ça. Et à partir de là, je rentre. Et puis, le meilleur moment de la journée, j'enlève mes rollers. Ça, c'est vraiment le petit plaisir, quoi. J'enlève mes rollers et puis, généralement, on me propose tout de suite la douche. Je crois que c'est parce que je sens pas très bon ou parce que je suis en sueur. Donc, je prends une petite douche. Le deuxième meilleur moment de la journée, c'est la douche. Et puis après, on se pose, on discute et là, c'est parti. On discute jusqu'au bout de la nuit ou juste un petit peu. Puis ensuite, je vais dormir. On mange et puis après, on voit un peu l'itinéraire du lendemain. Parce que les personnes qui habitent là connaissent mieux le chemin. Je m'endors très bien. Et le lendemain, ça recommence. «
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Est-ce que tu as eu des propositions spontanées des gens qui t'ont proposé de t'héberger avant même que tu leur demandes ?
Oui, oui, j'ai eu ça et ça c'est trop bien. Et notamment une fois où ça m'a vraiment, vraiment touchée, elle s'appelle Chris. Et d'ailleurs, c'était dans un contexte particulier parce que j'ai commencé à tousser à ce moment-là et je tombais malade. Et je me suis dit, oh, oh, là, c'était en pleine dans la période où on parlait beaucoup du Covid. Et donc, je me dis, bon, je tousse, je sais pas ce que c'est, je vais aller me faire dépister. Pour être sûre, comme ça, je pourrais montrer à la personne, voilà, je suis négative, etc. Donc là, je vais à la pharmacie, je me fais dépister. Et en attendant les résultats, j'étais dehors sur le rebord de la pharmacie. Et là, je commence à me poser des questions en me disant, mais quand même, même si je tousse et que je suis négative, les gens vont avoir peur. Et je ne sais pas comment ça va se passer pour chercher l'hébergement. Et donc, j'étais dans mes pensées. Et là, il y a une dame, Chris, qui arrive à côté de moi. Et qui me dit, tiens, c'est drôle, t'es rigolote, toi, avec tes rollers, tu fais quoi, là, tu viens d'où, etc. Et donc, du coup, je lui raconte mon voyage, et je lui dis que là, je suis en train d'attendre les résultats. Et elle me dit, mais viens à la maison. Elle me dit, tu restes à la maison, tant que tu veux, et dès que tu vas mieux, tu peux repartir. Et là, je m'y attendais pas du tout, déjà. Et je lui dis, mais... Enfin, t'as bien compris que je suis malade, en fait, je sais pas, j'avais le masque à ce moment-là. Et elle me dit, mais en fait, les gens malades, on en prend soin, on les rejette pas. Donc, c'est normal. Donc, du coup, viens à la maison. Et donc, enfin, super. Je suis venue chez elle, je suis restée 2 jours. Elle m'a fait plein de petits soins aux huiles essentielles, elle était adorable. Et finalement, du coup, je suis repartie, j'allais mieux et de nouveau, hyper confiante dans la vie, quoi. Parce que j'avais même pas à chercher à ce moment-là, l'hébergement est venu à moi.
Mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ce paramètre crise sanitaire. Donc tu as fait tes 16 mois sur la route pendant le Covid, en fait. Donc les gens t'ont ouvert la porte à une époque où les gens étaient plutôt divisés et s'éloignaient les uns des autres.
Oui, c'est ça. Et en fait, au début, donc quand je suis partie en avril, il n'y avait pas encore le pass sanitaire. Et en fait, ça se passait bien. Les gens même me remerciaient, en fait, de leur faire parler d'autre chose que du Covid. Et de parler de voyage, d'amour, de confiance. Et ça se passait bien. Et un jour, on m'a annoncé qu'on avait mis en place le pass sanitaire. Et à ce moment-là, j'y croyais pas. En fait, je me suis dit, non, c'est dans les dystopies, dans les films, ça, c'est pas vrai. Et finalement, c'était vrai. Et j'ai pu en ressentir quelques difficultés parce que des personnes me demandaient le pass sanitaire pour m'héberger chez elles. Et ça m'est déjà arrivé aussi d'ailleurs 2 fois où on m'a demandé de partir une fois que le sujet vaccin était abordé et qu'ils savaient que j'étais pas vaccinée. Du coup, ils m'ont demandé de partir à ce moment-là. Et c'est dur, mais c'est OK. Moi, je comprends qu'ils aient des peurs, qu'ils aient leurs règles, c'est OK. Mais c'est vrai que sur le coup, en fait, t'as pas envie, quoi. Tu vois, quand j'ai fait oui pour retrouver l'hébergement et que, en fait, faut que tu reprennes tes affaires, que tu remballes tout et que tu repartes. Physiquement et mentalement, c'est dur.
Donc, on t'a ouvert la porte, on a découvert que tu n'étais pas vaccinée et on t'a mis dehors.
Oui, voilà. Bon, après, les personnes étaient désolées et personne expliquait. Donc, c'est pour ça que moi, je n'en voulais pas du tout. Et comme je disais, je comprends chacun ses peurs. Voilà, chacun a droit d'avoir leur peur.
Quand on voyage comme ça, sans filet, souvent le filet apparaît, hein, on l'a vu, tu as trouvé des repas, tu as trouvé des dodos tout le long de ton itinéraire, des rencontres incroyables, des gens avec qui partager et échanger. Est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois dans la vie, il y a une forme de magie comme ça, hein? Est-ce que tu l'observes aussi, le fait de partir, de lever toutes ces peurs, de partir sans savoir où on va, qu'il y a comme si on était aidé par une sorte de main invisible qui est là pour nous montrer la bonne direction?
Ben oui, oui, évidemment. Franchement, après un voyage comme ça, si je crois pas en la magie, je sais pas ce que c'est, mais je dirais que c'est même pas invisible en fait, c'est visible et c'est là tous les jours sous nos yeux. C'est juste qu'en voyage et dans le voyage, dans la formule que j'ai choisi d'être sur attentive à cette magie là, et donc du coup, je la prends volontiers, quoi. Mais la magie, je pense qu'elle est vraiment partout dans nos vies quotidiennes, nomades ou sédentaires, et qu'on en ait besoin ou pas d'ailleurs. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe tous les jours.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Une autre question que je me pose, donc Catherine, je repose le cadre. Tu es partie 16 mois en roller, toute seule, avec cette envie de voyager sans argent, de rencontrer des personnes partout sur ton itinéraire. Voyager seule en tant que femme, qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes celles qui aimeraient peut-être aussi se lancer sur les routes de France ou du monde, mais qui ont peur parce qu'elles sont une femme ?
Bah, moi je pense, mais c'est un conseil qui n'est pas vraiment un conseil, mais c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Je dis ça parce que moi je pense que j'ai eu la chance d'avoir une éducation par mes parents où en fait fallait pas avoir peur des autres. Ils nous ont pas appris à être méfiants des autres, ils nous ont appris à être prudents, à être vigilants sur ce qui nous entoure, mais ne pas se méfier des gens. Et je sais que de par plein d'éducation, on a tendance à être méfiant. Donc si, tu peux t'entraîner à ne plus te méfier des gens. Et par exemple, alors effectivement, en tant que femme, même des hommes, mais des fois, t'es interpellée dans la rue. Et ça, bah, ça m'arrive aussi. Sauf qu'au moment où on est interpellée, alors moi, ce que je fais, c'est que je m'arrête, je discute et en fait, on devient pote. Mais voilà, moi, je te demande pas de devenir pote avec la personne. Par contre, dis-toi juste dans ta tête à ce moment-là que la personne, elle a peut-être juste envie de parler. Juste à ce moment-là, elle a peut-être envie d'un échange. Et si tu as le temps, ben pourquoi pas échanger ? Parce que elle peut t'apporter des choses et tu peux lui apporter des choses. Et si tu n'as pas le temps, eh ben tu peux juste lui dire bonjour et partir. Mais pas d'a priori sur ses intentions. Pas se dire ah, il me veut du mal, il me dérange, j'ai pas envie qu'il me parle. On est des êtres, je pense, hyper sociaux. Et on aime bien finalement échanger, pas tout le temps peut-être, mais juste un bonjour, un sourire ou des fois parler plus longuement. Moi je pense que c'est ça. Ma vie, j'aimerais bien que ma vie soit un éternel échange entre humains et donc que les gens continuent à m'aborder dans la rue. Moi j'adore quand les gens m'abordent dans la rue et j'adore aller voir les gens aussi, donc ne pas avoir peur de ça et puis s'écouter aussi.
Tu parlais aussi de l'intuition, je pense qu'il y a aussi cette grande... la place à l'intuition est importante quand tu entreprends ce type de voyage.
Oui, ça c'est clair qu'une personne que tu ne sens pas, un endroit ou une situation que tu ne sens pas, n'hésite pas à changer de d'orientation, mais pas par peur et pas par habitude. Je dirais vraiment par intuition. C'est si à ce moment-là tu sens... Ça pourrait juste être une conversation lambda ou quoi, pourquoi pas s'y lancer. Et généralement, c'est pas juste une conversation lambda, les synchronicités font bien les choses aussi.
Des leçons de vie que tu aurais envie de partager, que ce voyage t'ont enseigné ?
Moi, je dirais déjà, dans les moments difficiles, parce qu'il y en aura toujours, comme les moments faciles et de joie, mais les moments difficiles, il faut continuer d'avancer. Et j'ai vraiment ce parallèle-là avec moi, ma route, la route du roller, la route lisse qui devient de la terre ou qui devient impraticable. Si je reste plantée là, à ce moment-là, j'avance pas. Donc soit je fais demi-tour et je prends un autre chemin, soit je déchausse, soit je continue, mais dans tous les cas, il faut pas rester là. Et parfois, il y a des rencontres qui viennent pour nous encourager. Donc, restez ouverts aux rencontres. Une deuxième, c'est que tout est possible. Alors maintenant que j'ai fait ça, j'ai l'impression que plus rien ne peut m'arrêter, quoi. Et avec plus ou moins d'aide de la part des autres, avec plus ou moins de volonté de moi-même, mais que tout est possible. Tout est vraiment possible. Et une dernière chose, c'est qu'il ne faut pas oublier... ça, je me le souhaite à moi-même, mais je ne veux pas oublier d'être heureuse. C'est jusqu'au bout de ma vie tout ce que je fais dans ma vie, il faut que je prenne en compte le fait que faut que ça me rende heureuse.
Voilà. C'est des très belles leçons, donc s'engager au bonheur et accepter ou se rendre compte que tout est possible dans la vie et qu'on est finalement les créateurs de sa propre réalité. Merci Catherine, belle vie, beau chemin, belle aventure, que la vie soit généreuse, bah, elle l'est déjà apparemment.
Elle l'est déjà.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter la deuxième partie de l'émission avec Catherine comme invitée. Retrouvez l'intégralité de ce podcast Regarde ailleurs sur Deezer, Spotify et tous les sites de streaming en ligne. Merci à tous.